Le matin suivant, elle lui apporta encore de la soupe et lui dit qu'elle avait lu 40 pages de ce qu'elle appelait son livre manuscrit. Elle ajouta qu'elle ne le trouvait pas aussi bon que les autres. C'est difficile à suivre. Ça n'arrête pas de sauter en avant et en arrière dans le temps. Technique, répondit-il. Il planait quelque part entre la douleur et l'absence de douleur et était donc capable de penser un peu mieux à ce qu'elle disait. Question de technique, c'est tout. Le sujet commande la forme. Il supposait vaguement que ces trucs de métier pourraient l'intéresser, voire même la fasciner. Dieu sait s'ils avaient fasciné les étudiants des ateliers d'écriture auxquels il avait fait des cours dans sa jeunesse. Le garçon a un esprit confus, vous comprenez. Et c'est pourquoi... Oui, il est très confus. Et il est moins intéressant à cause de cela. Pas inintéressant. Je suis sûr que vous ne pourriez imaginer un personnage sans intérêt, mais moins intéressant. Et tous ces gros mots. Pas une ligne sans un mot en C. Ça manque. Elle se mit à ruminer tout en lui donnant sa soupe d'un geste automatique, essuyant ce qui débordait sur son menton sans presque regarder, à la façon d'une dactylo expérimentée qui ne jette que de rares coups d'œil sur son clavier. C'est ainsi qu'il comprit sans effort qu'elle avait été infirmière. Non, pas médecin, oh non. Jamais un médecin n'aurait anticipé le dégoulinement de la soupe comme ça, ni su l'essuyer d'une main aussi experte. Si le type de la météo avait fait son travail moitié aussi bien que Annie Wilkes fait le sien, je ne serais pas dans ce putain de merdier, pensa-t-il amèrement. Ça manque de noblesse, s'écria-t-elle soudain avec un sursaut qui faillit lui faire renverser la soupe à l'orge sur le visage levé de Paul. En effet, répondit-il d'un ton patient. Je comprends ce que vous voulez dire, Annie. Il est exact que Tony Bonassaro est un être sans noblesse. C'est un môme sorti du bidonville qui s'efforce de s'arracher à son milieu, vous comprenez? Et ces termes, eh bien, tout le monde les utilise dans... C'est faux, s'exclama-t-elle en lui jetant un regard meurtrier. Comment croyez-vous que je fais quand je vais au magasin d'aliments pour bétail en ville? Que pensez-vous que je dise? « Dis donc, Tony, donne-moi un sac de 7C de bouffe pour cochon et un sac de 7C de maïs à vache, et ainsi de suite. »« Et que croyez-vous donc qu'il me réponde ? Vous avez F, raison, Annie, ça c'est parlé. » Elle lui faisait les gros yeux et son visage était comme un ciel dans lequel couve une tornade, prête à se déchaîner à tout instant. Il s'enfonça dans les oreillers effrayés. Le bol de soupe penchait dans la main d'Annie. Une goutte puis deux tombèrent sur le couvre-lit. Et après, je descends la rue et je vais à la banque dire à Madame Bollinger « Tenez, voici un F chèque et filez-moi 50 C de dollars et que ça saute. Croyez-vous que lorsqu'on m'a appelé à la barre de Den... » Une coulée de soupe boueuse cascada sur le couvre-lit. Elle regarda les dégâts puis leva les yeux sur Paul. « Tenez, regardez ce que vous me faites faire. »« Je suis désolé. »« Bien sûr, vous pouvez l'être !» hurla-t-elle. Puis elle lança le bol dans un angle de la pièce où il explosa. Une tache de soupe étoila le mur. Il hoqueta. Puis elle s'éteignit, comme une lumière. Elle resta immobile durant peut-être 30 secondes. 30 secondes pendant lesquelles le cœur de Paul Sheldon parut ne pas avoir un seul battement. Elle se réveilla petit à petit et se mit soudain à pouffer. « J'ai un de ces caractères, » dit-elle. « Je suis désolé, » fit-il, la gorge sèche. « Vous pouvez bien. » Les traits de son visage se relâchèrent à nouveau et elle regarda vers le mur, l'air boudeur. Il pensa qu'elle allait encore passer aux abonnés absents. Mais au lieu de cela, elle poussa un soupir et soulagea le lit de sa masse. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce genre de mots dans les livres de Misery parce qu'ils n'en utilisaient pas à l'époque. Ils n'étaient même pas inventés. Une époque bestiale exige un vocabulaire bestial, j'imagine. C'était mieux en ce temps-là. Vous devriez vous en tenir à vos histoires de Misery, Paul. Je vous le dis sincèrement, comme votre admiratrice numéro un. Elle alla jusqu'à la porte et se retourna pour le regarder. Je vais remettre le livre manuscrit dans votre sac et finir Misery's Child. Je reviendrai peut-être sur l'autre ensuite. Ne le faites pas si cela doit vous rendre furieuse, répondit-il en esquissant un sourire. J'aime autant que vous ne le soyez pas. C'est qu'en quelque sorte, je dépends de vous. Elle ne lui rendit pas son sourire. Oui, c'est exact. C'est exact. N'est-ce pas, Paul ? Elle sortit. La marée descendit. Les piliers ressurgirent. Il se mit à attendre la sonnerie de l'horloge. Deux coups. Les deux coups retentirent. Il était à demi dressé sur les oreillers et ne quittait pas la porte des yeux. Elle entra. Elle avait enfilé un grand tablier par-dessus son cardigan et l'une de ses jupes. Elle tenait un seau à la main. « Je suppose que vous voulez prendre votre biscornouille de médicaments, » dit-elle. « Oui, s'il vous plaît. » Il essaya de lui adresser un sourire de gratitude et éprouva de nouveau cette honte. Il se trouvait grotesque, étranger à lui-même. « Je l'ai, » reprit-elle. « Mais je dois commencer par nettoyer ces saletés dans le coin. » Ces saletés que vous avez faites. Il faudra attendre que j'aie fini. Cloué au lit, ses jambes en forme de branches brisées sous les couvertures, une sueur froide ruisselant avec lenteur le long des joues, il la regarda traverser la pièce, poser le seau sur le sol, ramasser les débris du bol, sortir de la chambre pour aller les jeter, revenir, s'agenouiller à côté du seau, et en tirer une serpillière savonneuse. Qu'elle essaiera avant d'entreprendre de nettoyer la tache de soupe séchée sur le mur. Cloué au lit, il regardait, et finalement se mit à trembler. Des tremblements qu'il ne pouvait contenir, et qui rendaient la douleur pire encore. Elle se retourna une fois, et le vit qui frissonnait et trempait son drap de sueur. Elle lui adressa un sourire entendu, chargé de tant de sournoiseries qu'il aurait pu facilement la tuer. « Ça s'est desséché, » dit-elle en regardant de nouveau vers l'angle du mur. « J'ai bien peur d'en avoir pour un bon moment, Paul. » Elle frotta. La tache disparut lentement de l'enduit, mais elle continua de plonger la serpillière dans le seau, de la tordre, de frotter et de tout recommencer. Il ne pouvait pas lui voir le visage, mais l'idée, la certitude, qu'elle avait été prise d'une nouvelle absence et pourrait continuer à frotter le mur pendant des heures, se mit à le tourmenter. Finalement, juste avant que la pendule ne sonne un coup, la demi de deux heures, elle se leva et laissa retomber la serpillière dans l'eau. Elle prit le seau et sortit de la pièce sans un mot. Cloué au lit, il tendit l'oreille vers les craquements du plancher qui trahissait le passage de sa masse imposante et compacte. Il entendit qu'il vidait l'eau. Puis, à sa stupéfaction, qu'il le remplissait à nouveau. En silence, il se mit à crier. Jamais la marée ne s'était retirée aussi loin. Il ne voyait plus que des flaques boueuses et les deux poteaux déchiquetés projetant pour l'éternité leurs ombres tailladées. Elle revint, s'immobilisa un instant sur le seuil de la chambre et étudia le visage mouillé de Paul avec ce même mélange de sévérité et d'amour maternel dans son expression. Puis ses yeux se tournèrent vers l'angle de la pièce. Il ne restait aucune trace de la tache de soupe. « Il faut que je rince maintenant, » dit-elle. sinon le savon va laisser une trace plus sombre. Je dois tout faire, et tout faire à fond. Quand on vit seul, on n'a aucune excuse de bâcler le travail. Ma mère avait une devise. Paul, et je la mets en pratique. Une fois crasseux, jamais net. Voilà ce qu'elle disait. S'il vous plaît, gémit-il. S'il vous plaît. J'ai mal. C'est à mourir. Non, vous ne mourrez pas. Je vais crier, dit-il, se mettant à pleurer plus abondamment. Ça lui faisait mal de crier. Ça lui faisait mal aux jambes et ça lui faisait mal au cœur. Je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Alors criez. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez fait tout ce gâchis, pas moi. Ce n'est de la faute de personne d'autre que vous. Il réussit néanmoins à ne pas crier. Il la regarda plonger la serpillière dans l'eau, l'essorer, frotter, rincer, recommencer. En fin de compte, alors que la pendule qu'il imaginait se trouvait dans le salon sonnait trois coups, elle se leva et prit le seau. Elle va sortir maintenant. Elle va sortir et je vais l'entendre vider le seau dans l'évier, et peut-être qu'elle ne va pas revenir avant des heures, parce que je ne sais pas si elle juge m'avoir assez puni ou non. Mais au lieu de sortir, elle se dirigea vers le lit et fouilla de sa main libre dans la poche du tablier. Elle en tira non point deux gélules, mais trois. « Tenez, » dit-elle tendrement. Il les engloutit, et lorsqu'il releva les yeux, il la vit qui soulevait le seau de plastique jaune et le lui tendait. Il remplissait son champ de vision comme une lune à son couchant. Quelques gouttes d'eau grisâtre tombèrent sur le drap. « Faites-les descendre avec ça, » ordonna-t-elle. Il y avait toujours de la tendresse dans sa voix. Il la regarda, les yeux exorbités. « Allez-y. Je sais que vous êtes capable de les avaler sans eau, mais je vous prie de croire que je peux vous les faire rendre instantanément. Après tout, ce n'est que de l'eau de rinçage. Ça ne vous fera pas de mal. » Elle se pencha sur lui comme un menhir, le seau légèrement incliné. Il voyait les serpillières qui ondoyaient comme un noyer dans les profondeurs troubles de l'eau. Il devinait une croûte savonneuse dessus. Quelque chose en lui protesta, mais il n'hésita pas une seconde. Il but rapidement, faisant descendre les gélules, et il eut dans la bouche le même goût que lorsque sa mère autrefois l'obligeait à se laver les dents avec du savon. Son estomac se révulsa et il émit un rot grave. « À votre place, j'éviterai de rendre, Paul. Pas d'autre avant 9 heures ce soir. » Elle le contempla quelques instants, le regard vide et inexpressif, puis son visage s'éclaira et elle sourit. « Vous ne me mettrez plus en colère, n'est-ce pas ?»« Non, » souffla-t-il. Mettre en colère la lune qui a porté la marée montante? Quelle idée! Quelle affreuse idée! « Je vous aime, » dit-elle, et elle l'embrassa sur la joue. Puis elle sortit, sans regarder derrière elle, portant le seau comme une paysanne solidement découplée porterait un seau de lait, en l'éloignant légèrement du corps, sans même y penser, afin de ne rien renverser. Il resta allongé, un goût fait d'un mélange de sable et de plâtre dans la bouche, goût de savon aussi. Pas question de dégueuler. Pas question de dégueuler. Pas question. Finalement, ce qu'il y avait d'impératif dans cette idée commença à s'estomper, et il se rendit compte qu'il allait s'endormir. Il avait réussi à conserver le médicament assez longtemps pour qu'il commence à faire effet. Il avait gagné, pour cette fois. Il rêva qu'un oiseau le dévorait. Ce n'était pas un bon rêve. Il y eut une détonation et il pensa. « Oui, bien, parfait, descendez-le, descendez cette saloperie. » Puis il se réveilla et comprit qu'il s'agissait seulement d'Annie Wilkes qui refermait la porte de derrière. Elle était sortie faire ses corvées. Il entendit l'écrasement étouffé de ses pas dans la neige. Elle passa devant la fenêtre, accoutrée d'un parka au capuchon relevé. Son haleine fit un nuage qui se dispersa tandis qu'elle avançait. Elle ne regarda pas vers lui, consacrant toute son attention à son travail dans l'étable, supposait-il. Nourrir les bêtes, nettoyer les stalles, voire jeter quelques sorts. Ah, il ne l'en croyait pas incapable. Le ciel violacé s'assombrissait avec le crépuscule. 5h30, 6h peut-être. La marée était toujours haute. Il aurait pu se rendormir. Il l'aurait bien voulu, en fait. Mais il devait réfléchir à la bizarre situation dans laquelle il se trouvait, tant qu'il était capable de penser à peu près rationnellement. Ce qu'il y avait de pire, découvrit-il, était qu'il n'avait aucune envie d'y réfléchir, même lorsqu'il le pouvait, alors qu'il savait très bien qu'il ne pourrait mettre un terme à cette situation sans un effort de réflexion. Son esprit ne cessait de repousser ses tentatives, comme un enfant repousse son assiette lors même qu'il n'ignore pas qu'il ne pourra quitter la table sans l'avoir terminée. Il ne voulait pas y penser parce que le simple fait de vivre était en lui-même assez dur. Il ne voulait pas y penser parce qu'à chaque fois, des images désagréables se présentaient à lui. La façon dont elle s'absentait, les idoles de pierre auxquelles elle lui faisait penser, le seau de plastique jaune qu'elle avait projeté vers son visage comme une lune sur le point de s'écraser. Penser à ces choses-là ne changerait rien à la situation. Mais dès qu'il évoquait dans son esprit Annie Wilkes et ce que lui faisait dans cette maison, telles étaient les pensées qui lui venaient, chassant toutes les autres. Son cœur se mettait à battre trop fort, de peur essentiellement, mais aussi en partie de honte. Il se revoyait approchant les lèvres du bord du seau jaune. Il revoyait l'eau de rinçage avec sa pellicule savonneuse et la serpillière qui flottait au fond. Il revoyait tout cela, mais également comment il avait bu et bu sans hésiter. Jamais il ne pourrait raconter cela à quelqu'un, en admettant qu'il en sorte un jour. Et s'il songea qu'il avait la possibilité de se mentir à lui-même, il sut qu'il n'en serait jamais capable. Cependant, malheureux ou non, et il l'était, il avait encore envie de vivre. Réfléchis donc, nom de Dieu. Seigneur, es-tu déjà terrorisé au point de ne même pas pouvoir essayer ? Non, mais presque. C'est alors qu'une pensée étrange, pleine de colère, lui vint à l'esprit. Elle ne comprend pas le nouveau livre parce qu'elle est trop stupide pour comprendre de quoi il est question dedans. Pensée qui n'était pas seulement étrange. En de telles circonstances, l'effet que pouvait produire Fast Cars sur Annie Wilkes était sans aucune espèce d'intérêt. Mais revenir sur les choses qu'elle avait dites était au moins une voie nouvelle à explorer, et se sentir en colère contre elle valait mieux que d'avoir peur d'elle. Si bien qu'il s'y engagea avec un certain empressement. Trop stupide ? Non. Trop enfoncée dans ses habitudes. Non seulement elle ne veut pas changer, mais la seule idée de changement la révulse. Oui. Et même si elle était cinglée, était-elle si différente dans l'évaluation de son travail des centaines de milliers d'autres personnes ? Des femmes à 90%, qui, un peu partout dans le pays, trépignaient d'impatience en attendant chaque nouvel épisode de 500 pages des turbulentes aventures de l'enfant trouvé qui s'était élevé jusqu'à épouser un père du royaume. Non, absolument pas. Elle voulait misérie, misérie, misérie. Chaque fois qu'il avait pris une ou deux années pour écrire l'un de ses autres romans, ceux qui avaient représenté à ses yeux son œuvre sérieuse, au début avec certitude, puis avec espoir et finalement avec une espèce de désespoir sinistre, il avait reçu des monceaux de lettres de protestation de ses femmes, dont beaucoup signaient « Votre admiratrice numéro 1 ». Le ton de ces lettres allait de la stupéfaction, en fin de compte ce qui lui faisait le plus mal, jusqu'au reproche et à la colère ouverte. Mais le message était partout identique. « Ce n'était pas ce que j'attendais, ce n'était pas ce que j'espérais, je vous en prie, redonnez-nous Misérie, je veux savoir ce que fait Misérie ». Il aurait pu écrire un nouveau « Au-dessous du volcan », un autre « Moby Dick », c'était sans importance. Elle voulait Misérie et seulement Misérie. C'est difficile à suivre. Ce n'est pas intéressant. Et tous ces gros mots. La colère le reprit. Colère contre sa compacité sans faille. Colère à l'idée qu'il était littéralement kidnappé, gardé prisonnier ici, obligé de devoir choisir entre boire l'eau de rinçage trouble d'un seau ou souffrir le martyre à cause de ses jambes en pièces, sans compter, pour couronner le tout, qu'elle avait le culot de critiquer le meilleur livre qu'il eût jamais écrit. « Va te faire foutre, toi et tes gros mots en C ou P !» s'exclama-t-il. Et soudain, il se sentit mieux. Se sentit de nouveau lui-même, tout en n'ignorant pas ce qu'avait d'enfantin, de pitoyable et d'insignifiant cette rébellion, puisqu'elle était dans les tables d'où elle ne pouvait l'entendre et que la marée recouvrait encore largement les poteaux déchiquetés. Et cependant, il se rappela comment elle était entrée, retenant les gélules, lui arrachant la permission de lire le manuscrit de Fast Cars. Une bouffée de honte et d'humiliation vint lui empourprer le visage. Mais à cela s'ajoutait maintenant une véritable colère. L'étincelle était devenue une petite flamme cachée. Jamais il n'avait montré à qui que ce soit un manuscrit avant de l'avoir revu, corrigé et retapé. Jamais, pas même à Brice, son agent littéraire, jamais. Il n'en faisait même pas. Ses réflexions s'interrompirent un instant. Il entendait le meuglement étouffé d'une vache. Oui, il n'en tirait même pas une copie tant qu'il n'avait pas procédé à la deuxième frappe. Le manuscrit de Fast Cars, qui se trouvait maintenant aux mains d'Annie Wilkes, était en réalité le seul exemplaire existant au monde. Il avait même brûlé ses notes. 2 années d'un dur labeur. Elle ne l'aimait pas. Elle était cinglée. Misérie. Voilà ce qu'elle aimait. Misérie était la personne qu'elle aimait, et non pas cette espèce de vaurien voleur de voiture sorti du quartier hispano de Harlem et qui parlait comme un charretier. Il se souvenait d'avoir pensé « Non, prenez les pages et faites-en des cocottes en papier si vous voulez » avant de l'implorer. De nouveau, la colère et l'humiliation s'emparèrent de lui, éveillant les premiers élancements sourds dans ses jambes. Oui, le travail, la fierté du travail, la valeur du travail lui-même, tout cela se réduisait à des ombres de lanterne magique. Ce que c'était en réalité lorsque la douleur devenait assez mauvaise. Qu'elle envisage de lui faire cela, qu'elle puisse lui faire cela, alors qu'il avait passé le plus clair de sa vie d'adulte en pensant que le terme d'écrivain était ce qui le définissait le mieux, la faisait paraître d'une monstruosité sans nom. C'était quelque chose à quoi il devait échapper. Elle était réellement une idole, et si elle ne le tuait pas, elle risquait de détruire ce qu'il y avait en lui. Il entendit alors les grognements impatients du cochon. Elle avait cru qu'elle se formaliserait, mais il trouvait que Misérie était un nom merveilleux pour un cochon. Il se souvint de son imitation, de la manière dont sa lèvre supérieure s'était ourlée et repliée vers le nez, de ses joues qui avaient pu s'aplatir, et comment elle avait réellement ressemblé à un cochon pendant un instant. De l'étable lui parvint sa voix. « Calme, calme, ma cochonne !» Il se laissa retomber sur les oreillers, posa un bras sur ses yeux et essaya de s'accrocher à la colère, car la colère lui donnait du courage. Un homme courageux est capable de penser, un Froussard non. Voici donc une femme qui avait été infirmière, de cela il était sûr. Exerçait-elle encore? Non, puisqu'elle n'allait pas travailler. Pourquoi n'exerçait-elle plus? La réponse paraissait évidente. Parce qu'elle avait quelques cases de vide. Parce qu'elle ne tournait pas rond. Si une telle évidence avait pu le frapper au milieu des brumes de la souffrance, elle avait dû frapper encore plus facilement ses collègues. Il disposait en outre d'une petite information supplémentaire qui lui permettait de juger à quel point elle ne tournait pas rond, non ? Elle l'avait tiré de l'épave de sa voiture et au lieu d'appeler la police ou une ambulance, elle l'avait installé dans la chambre d'amis. Elle lui avait balancé des intraveineuses dans les bras et une charretée de saloperie dans le corps. Tellement bien qu'il avait fait au moins ce qu'elle appelait un accident respiratoire. Elle n'avait dit à personne qu'il se trouvait ici. Et puisqu'elle ne l'avait pas encore fait, cela signifiait qu'elle n'en avait nullement l'intention. Aurait-elle eu le même comportement si c'était Tartempion de Trifouille-les-Oies qu'elle avait trouvé dans l'épave? Non. Non, il ne le pensait pas. Elle l'avait gardé, lui, parce qu'il était Paul Sheldon. Et elle... Elle est mon admiratrice numéro un, murmura Paul, le bras toujours sur les yeux. Un souvenir affreux surgit alors dans l'obscurité. Sa mère l'avait emmené au zoo de Boston et il avait admiré un grand et bel oiseau. Il resplendissait des couleurs les plus somptueuses, rouge, violet, bleu roi, qu'il eût jamais vu. Mais il avait aussi lu dans son regard une tristesse infinie. Il avait demandé à sa mère d'où venait cet oiseau et lorsqu'elle lui avait répondu « d'Afrique », il avait compris qu'il était condamné à mourir dans la cage où il vivait, loin, très loin de l'endroit où Dieu avait prévu qu'il fût. Il se mit alors à pleurer. Sa mère lui acheta un esquimau glacé, il s'arrêta de pleurer pendant un moment, puis la mémoire lui revint et il recommença, si bien qu'elle dut le ramener à la maison et qu'elle lui dit, pendant le voyage en tramway, qu'il n'était qu'une mauviette et un pleurnichard. Ses plumes, son œil, dans ses jambes, les élancements montèrent en régime. Non, non, non ! Il pressa plus fort le creux du bras contre ses yeux. De l'étable lui parvenaient des coups sourds et espacés, impossible de dire de quoi il s'agissait, bien sûr, mais il l'imaginait qui... Votre esprit, votre créativité, c'est tout ce que je voulais dire. Déplacer des bottes de foin dans le grenier du talon de ses chaussures. Il se représentait la chute des paquets d'herbes sèches dans les mangeoires de l'étable. L'Afrique. Cet oiseau venait d'Afrique. De... C'est alors que, coupant le fil de ses réflexions avec la netteté d'une lame de rasoir, lui revint sa voix agitée, vociférant presque... Lorsqu'elle avait dit « Croyez-vous que lorsque j'ai été appelé à la barre de Den ?» À la barre. Quand on m'a fait venir à la barre à Denver. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu vous vienne en aide ? Je ne sais pas où il a eu ça. Je le jure. Il est toujours en train d'écrire des choses comme ça ? Annie Wilkes, si vive. Mon nom est Annie Wilkes. Il voulut l'obliger à en dire davantage. Elle refusait. Allons, un effort, grommela-t-il, le bras toujours sur les yeux. C'était de cette façon qu'il pensait le mieux, qu'il l'imaginait le mieux. Sa mère aimait à dire à Madame Mulvaney, la voisine, quelle merveilleuse imagination il avait, si vive, et quelle merveilleuse histoire il écrivait, sauf bien entendu quand elle le traitait de mauviette et de pleurnichard. Allons, un effort, allons, allons ! il arriva à imaginer le tribunal de Denver, à voir Annie Wilkes à la barre, non pas habillée d'un jean, mais d'une robe violet sombre élimée sous un affreux chapeau. Il imaginait la salle du tribunal bourrée de spectateurs, un juge chauve et portant des lunettes. Il lui voyait aussi une moustache qui blanchissait, et aussi une marque de naissance en dessous de cette moustache, laquelle, cependant, ne recouvrait pas entièrement la tache. Annie Wilkes. Il lisait déjà à 3 ans. Vous vous rendez compte ? Dans cet esprit d'admiratrice aimante. Il est toujours en train d'imaginer des choses, d'imaginer plein de trucs. Maintenant, je dois rincer. D'Afrique. Cet oiseau vient. Allez, vas-y, murmura-t-il. Mais il ne put avancer davantage. Le greffier lui demanda de décliner son identité, et elle répéta sans fin qu'elle était Annie Wilkes, sans ajouter autre chose. Elle se tenait là, avec son corps solide, fibreux, menaçant qui déplaçait l'air, et redisait son nom, encore et toujours. Mais c'était tout. S'efforçant toujours d'imaginer pour quelle raison l'ancienne infirmière qui le retenait prisonnier avait bien pu se retrouver devant un tribunal à Denver, Paul s'enfonça peu à peu dans le sommeil.